Thank you.
Merci.
Thank you for the kind words. Yeah.
Merci pour ces mots gentils.
Lord, we
Seigneur, nous t'adorons ce soir. Nous sommes dans ta présence. Nous sommes émerveillés quand nous pensons à ton œuvre, quand nous pensons à ton peuple et quand on voit ses visages, quand on voit les vies qui sont représentées ici ce soir, les endroits qui sont représentés, tellement de cœurs brisés qui ont été touchés, tellement de gens qui ont été pris dans le royaume des ténèbres et déplacés dans le royaume du Fils de ton amour. Quel miracle! Quelle grâce! Merci Seigneur, merci Seigneur, on t'adore. Donne-nous ce soir les mots qui pourront nous relever. On ne veut pas entendre de nous-mêmes, mais on veut entendre du ciel ce soir. On t'aime vraiment. Merci. Au nom de Jésus, Amen. Avant de parler, je veux vraiment remercier Pasteur Chaleur pour sa vie.
Yeah. It's been very encouraging to be here and
ça a été très encourageant d'être ici et ça a été très encourageant d'entendre qu'il y a tellement de gens qui prient pour le monde musulman. C'est une bonne nouvelle.
The bad news is that
la mauvaise nouvelle,
many of the prayers, they sound like this.
C'est que beaucoup de leurs prières ressemblent à ça. Seigneur, envoie des ouvriers dans le champ, dans le monde musulman. Mais s'il te plaît, ne m'envoie pas moi.
Aie
pitié de moi, s'il te plaît. Demande-moi n'importe quoi, mais pas les Arabes. Vous savez très bien de quoi je parle, n'est-ce pas? Je
ne
sais pas s'il y a des confusions à propos de ces prières dans l'administration céleste. Mais c'est extraordinaire de penser que quand on suit l'appel de Dieu, il est présent dans nos vies et il parle. Il parle tellement clairement. Et c'est extraordinaire de voir quand on parle de ce champ en particulier. Combien de gens sont vraiment certains qu'ils ne sont pas appelés sur ce champ? C'est incroyable comment on peut être certain de ça. Est-ce que tu es sûr que Dieu ne t'a pas appelé? Et beaucoup d'entre vous êtes en train de dire dans vos cœurs, oui, oui, j'en suis sûr. Et je vous parle à vous ce soir. Et je me sens vraiment privilégié de pouvoir représenter ce monde. Parce que j'ai vu quelque chose que Dieu veut que nous voyons. C'est extraordinaire quand on essaye de s'enfuir loin de l'appel de Dieu. Quand on s'enfuit loin de Dieu, en fait, on s'enfuit vers lui. Parce qu'il est omniprésent. C'est une situation intéressante. Ou quand on ment à Dieu, ça aussi c'est intéressant. C'est mignon. Parce qu'il est omniscient, n'est-ce pas? De quoi tu parles? Ou quand on menace Dieu. Si tu ne fais pas ça, je ne croirai pas en toi. Vous êtes tellement mignon. C'est tellement mignon. Mais je veux parler ce soir d'une femme de l'Ancien Testament qui a rencontré Christ. C'est une histoire bien connue. Et je veux juste le lire avec vous en Genèse 16.
The name of this woman is Hagar.
Le nom de cette femme, c'est Agar. Et le nom de son fils, c'est Ismaël. Et vous savez, elle a été une victime dans tellement de façons. Elle n'a pas eu beaucoup de choix dans sa vie. Elle venait d'Égypte. Et c'est extraordinaire ce qui lui est arrivé. L'histoire raconte que Sarah n'était pas capable d'avoir un enfant et elle l'a donné à son mari. Et elle est tombée enceinte. Et quand elle est tombée enceinte, elle a commencé à mépriser Sarah. Et Sarah lui a fait passer vraiment des moments difficiles. Et elle a dû s'enfuir pour sauver sa vie.
Et
elle a probablement essayé de retourner en Égypte. Et alors qu'elle était sur le chemin pour rentrer en Égypte, elle n'a juste pas réussi à y arriver. Et alors Jésus, l'ange de l'Éternel, vous savez, Jésus dans l'Ancien Testament est appelé l'ange de l'Éternel. Donc Christ l'a rencontré. Au verset 7, l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu ? » Elle répondit, « Je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. » Israël, ça veut dire « Dieu entend ». Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. Elle l'appela Atta El Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Car elle dit, « Ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu ?» C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de l'Akai Roi. C'est extraordinaire.
And she returns back in God's plan.
Et elle retourne alors dans le plan de Dieu. Et ensuite, Isaac va naître. Et quand Isaac va naître, elle va être à nouveau chassée de la maison. Et elle va se retrouver de nouveau en train de fuir pour sa vie. Et alors, encore une fois, l'ange va lui parler. C'est au chapitre 21. Verset 15. Elle était désespérée. Elle était rejetée. Elle avait été harcelée d'une manière ou d'une autre. Elle n'était pas éduquée. Elle était un peu sauvage. Personne ne voulait d'elle. Elle était seule. Verset 15. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc. Car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, « Qu'as-tu, Agar ? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Je crois qu'Agar est au ciel aujourd'hui. Vous pouvez me corriger, mais c'est ce que je crois. Je crois qu'elle est au ciel aujourd'hui. Et là, elle est avec ma grand-mère. Avec Pasteur Stevens, en communion avec eux. Agar n'était pas musulmane. Ismaël n'était pas musulman.
And Hagar is crying
Agar crie à Dieu et elle crie pour elle-même, pour sa destinée, et l'ange de l'Éternel lui apparaît. Il a un ministère envers elle, il la réconforte. Et Agar continue à crier. Je vis à Turquie. Je vis en Turquie, à Istanbul. Il y a en permanence des appels à la prière dans la ville et c'est très très fort. Ça remplit toute la ville. Et c'est vraiment très fort. On a vraiment l'impression qu'un moulah musulman est en train de crier. Mais en fait, non, c'est Agar qui crie. C'est Agar qui crie pour sa descendance, pour les fils et les filles d'Ismaël, parce qu'ils sont perdus. Et Dieu appelle les gens. On a des opportunités cette semaine, cette année, d'avoir un ministère à beaucoup d'endroits où les gens sont censés être musulmans. Et j'ai souvent pensé à Agar, parce qu'il y a tellement d'interprétations pour son nom. Certains disent que son nom signifie abandonné. D'autres disent que ça signifie fuir, parce qu'elle fuyait. Mais il y a une autre interprétation. C'est intéressant de voir comme ce nom peut vouloir dire beaucoup de choses. Mais l'une des interprétations que j'ai lues dit que son nom signifie celle qui craint. Celle qui craint. Si vous vivez dans un monde où Dieu ne vous écoute pas, où Dieu n'est pas votre ami, où Dieu ne vous aime pas de manière inconditionnelle, où Dieu ne parle pas avec vous, où il vous parle mais il ne parle jamais avec vous, alors il n'y a que de la crainte, il n'y a pas d'espoir. J'ai parlé à Dawid Samira d'Ouzbékistan, de Samarkand, et c'est vraiment une sœur précieuse.
Et
elle et sa sœur Amira se sont retrouvées dans une situation très horrible la semaine dernière, parce que leur père est devenu vraiment fou et les a emmenées à la police, en disant, elles sont devenues chrétiennes, je ne veux plus qu'elles vivent dans ma maison. Elles ont été chassées de la maison. Elles ont été chassées même de leur quartier.
Et
les gens les ont emmenées à leur maison et leur ont obligé à signer un papier en disant, j'irai plus jamais à l'église. Et je vois ces belles croyantes qui sont nos sœurs, nos petites sœurs, qui vivent à Samarkand. Et elles ont tenu ferme. C'était très dur pour Amira, parce qu'elle n'avait jamais expérimenté ça avant. Mais je connais ces filles, je connais le témoignage de leur vie. Et elles étaient là. Elles étaient là à cet endroit, ce n'était pas un accident. Et ensuite, le conseil du quartier leur a demandé de quitter le quartier. Vous pouvez imaginer ça? Parce que vous êtes un chrétien, vous n'avez plus le droit d'habiter dans ce quartier. Vous êtes une jeune fille. Vous avez vraiment besoin d'entendre parler du corps de Christ à ce moment-là. Vous avez vraiment besoin de savoir qu'il y a des gens à Baltimore qui vous aiment et qui sont avec vous. Dans ces endroits dont je parle, il y a beaucoup d'églises traditionnelles, beaucoup d'églises religieuses. Cette année passée, on est allé 3 fois en Égypte, au Caire. Et la première fois qu'on allait au Caire, on était tellement enthousiastes. On venait de Turquie, et en Turquie, on voit des croix nulle part. On ne voit pas d'église. Mais quand on arrive au Caire, on a l'impression d'entrer dans une ville chrétienne. On voit des églises partout. Il y a des églises de partout. Et c'était tellement extraordinaire pour nous. On était tellement encouragés par cela. Et en même temps, plus tard, quand on est allé dans une de ces églises traditionnelles, juste parce qu'on voulait voir ce que c'était, Il y avait beaucoup de fumée là, beaucoup de choses bizarres qui étaient en train de se produire, beaucoup de rituels. C'était en plus dans une langue étrangère pour nous. On ne pouvait rien comprendre. Au bout de 10 minutes, je suis sortie. Je ne pouvais pas le supporter. J'étais tellement attristée dans mon esprit. Je me disais, pour quelqu'un qui vient de l'extérieur, il n'y a rien qu'il peut recevoir de la part de Dieu. Il y a presque 30 ans, quand je suis allée en Azerbaïdjan, au temps de l'Union soviétique, je travaillais à Bakou. Et j'avais un désir d'aller dans une église. Et j'avais trouvé une église. Une église souterraine. Et je suis allée à leur culte. Il y avait plusieurs centaines de personnes là, c'était extraordinaire. Et j'ai demandé à la personne à côté de moi, où sont les Azerbaïdjanais ? Parce qu'il n'y avait que des Russes là. Et cette personne m'a regardé avec étonnement et elle m'a dit, ils sont musulmans. Il s'est dit, mais comment elle peut être aussi, comment il peut être assez stupide pour penser qu'un musulman puisse venir dans une église? Mais cette conversation a changé ma vie. Ça a changé quelque chose de très important dans ma façon de penser. J'ai compris à quel point Dieu se soucie de ces gens. Quand j'entends l'appel à la prière, je pense aux gens qui sont des croyants en secret, qui croient en Christ. On a rencontré des croyants en secret en Syrie. Dieu nous a conduits vers eux. Et quand ils étaient avec nous, ils ont dit, nous croyons en Christ. Nous avons cru en Christ toute notre vie. Personne ne le sait. Et c'est beau. C'est l'œuvre de Dieu. Et quand c'est l'œuvre de Dieu, rien ne peut, personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. Et vous savez ce qui est extraordinaire à propos de Jésus ? Il est allé dans des endroits. Il est allé partout. Il est allé en Galilée, il est allé en Judée, il est allé en Samarie. Il est allé à des endroits où il n'était pas censé aller. Il allait partout. Il était dans le temple, il était dans le bateau, il était dans la vallée, sur la montagne, dans le jardin. Il était toujours quelque part. Il ne s'est pas contenté de s'asseoir dans Jérusalem pour surfer sur le web. Mais il est allé dans des endroits vraiment réels. Et il nous conduit à aller dans des différents endroits. Quel est le sujet de mon message? Je veux juste que Greater Grace s'implante dans le Moyen-Orient. Je veux que Greater Grace entre dans ces pays. Je veux Greater Grace au Qatar. Je veux Greater Grace en Jordanie, au Liban. Je veux voir une église Greater Grace en Égypte. Où sont les ouvriers? Ils sont là. C'est le parfait moment pour en parler. Que Dieu vous parle. Est-ce que vous croyez vraiment que je peux le faire? Personne ne peut le faire. Et je vais juste finir avec ça. Mais un autre personnage auquel je veux penser, c'est Samson, en Juges 16. Il a tout raté. C'était quelqu'un vraiment de bizarre. Et il a tout raté en plus. Vraiment, sa vie, quelle histoire, quelle honte. Quelle histoire honteuse. En Juges 16, quand vous lisez, tout va de travers. Et c'était tout le temps sa faute. C'était la faute de personne d'autre. Un petit peu la faute de Delilah, mais quand même surtout la faute de Samson. Mais ensuite, c'est extraordinaire, au verset 22, quand il est dit que les cheveux de sa tête ont commencé à pousser de nouveau. C'est un moment extraordinaire. Et ensuite, au verset 23, quand il est dit, dans sa mort, il a atteint plus de personnes que dans sa vie. Je pense que c'était un croyant Greater Grace. Parce que beaucoup d'entre nous, on a raté nos vies. On a fait tellement de choses. Mais c'était peut-être même pas parce qu'on avait fait quelque chose de mal, mais peut-être parce que des personnes ont fait rater les choses dans nos vies. Mais en tout cas, ça a été un gros échec. Mais même après ça, on peut servir. Peut-être que votre vie, ça a été de mauvais choix les uns après les autres, des échecs ici et là. Mais après ça, vous pouvez servir. Samson a servi dans sa mort. Il a eu une mort glorieuse. C'était l'opportunité de sa vie au dernier moment et il l'a fait. Et c'est notre héros. J'ai vraiment aimé le message de Pasteur Reynaldo aujourd'hui et je veux finir avec une pensée à ce sujet. Il a parlé des marches des missions. Et il dit que parfois on trouve que la marche des missions est trop longue, mais non, elle est trop courte. Et j'aime beaucoup cette pensée. Et je pense que par la grâce de Dieu, vous allez servir dans le monde arabe. Et commencez par tous étudier le turc et déménager en Turquie. Et après, une fois que vous aurez fait ça, après vous pourrez entrer dans le monde arabe. Amen. Pendant ces jours, rachetons le temps. Jésus a dit à Israël en Ésaïe, « Vous êtes mes témoins. » Vous êtes mes témoins. Il a dit, vous recevrez la puissance et ensuite vous serez mes témoins. Écoutez, nous sommes sur cette terre pour rendre témoignage et pour faire des disciples. Nous sommes sur cette terre pour chercher et pour sauver ceux qui sont perdus. Nous sommes sur cette terre pour révéler l'amour qui a amené Dieu à être un homme et à être crucifié au calvaire. Nous sommes sur cette terre parce que qu'est-ce qu'un homme pourra donner pour son âme ? Qu'est-ce qu'il profite à un homme s'il gagne le monde entier et qu'il perde son âme? Qu'est-ce qu'il peut donner en échange de son âme? Marc 8. Ce ministère et chaque pasteur qui est affilié à ce ministère, notre travail c'est de gagner des âmes.
B-E-S-O-D-E-I-A-H.
Soyez Zodia, c'est en Néhémie 3:6, et ça veut dire révéler l'amour de Dieu. Ne soyez pas familier dans le fait de révéler l'amour de Dieu. Ça doit devenir une habitude pour nous de connaître l'amour de Dieu et de le révéler. Si nous semons avec des larmes, nous allons revenir en moissonnant, en portant nos gerbes. Dans notre travail, dans notre voisinage, trouvez des moyens de gagner les perdus. Faisons-le encore plus. Merci à Dieu pour ce qui est déjà fait. Beaucoup d'entre vous, vous l'avez déjà fait, mais faisons-le encore plus. Nous sommes ici pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. L'amour nous étreint et nous pousse à y aller. Parce que les gens sont faibles, frêles, malades, ils ont des besoins. Les riches n'ont rien, les gens les plus populaires n'ont rien. Ils n'ont rien, ils sont vides. Et ils ont besoin de notre message, ils ont besoin de l'amour de Dieu, ils ont besoin de conviction. Et ils ont besoin de la conviction de l'éternité, la conviction qu'il y a un enfer, la conviction qu'il y a un ciel, et ils ont besoin qu'on témoigne. Je crois que si une âme vaut autant que tout le monde, Dieu se soucie autant de chaque individu. Et je crois que nous sommes ici juste pour gagner les perdus, en faire des disciples, ici et dans le monde entier. Combien d'entre vous sont d'accord avec moi? Et est-ce que vous ne croyez pas que la raison pour laquelle beaucoup de gens n'y vont pas, c'est la crainte? Et quand vous allez évangéliser, c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Nous ne sommes que des messagers. Ne regardez pas par la vue s'il n'y a que 10 personnes qui viennent. Peu importe, on va continuer à frapper aux portes, porte après porte. Et il y a 156 personnes qui sont venues à l'église l'année dernière juste à partir de ce ministère. Et je veux que vous remarquiez que si on doit être un ministère rempli du Saint-Esprit, on doit amener de nouvelles personnes, des voisins, des collègues de travail, trouver des moyens pour aller évangéliser. Trouver un moyen par la prière d'aimer les gens qui vous entourent parce qu'ils ont des besoins qui dépassent vos imaginations. Amen. Jean chapitre 1 en commençant au verset 36.
And looking upon Jesus as he walked,
et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la dixième heure. Et l'un des deux qui ont entendu Jésus parler était André, le frère de Simon-Pierre. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon, et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Père, on te remercie une fois encore pour ce merveilleux message de l'Évangile que tu nous as donné, pour la vie du corps de Christ. Merci parce que tu as donné ta vie pour nous, avec tes bras grands ouverts. Tu nous as accueillis, nous et chaque personne, avec tes bras grands ouverts. Merci pour le cœur de Dieu ce soir, le cœur de Jésus-Christ, que nous puissions venir à lui quand nous sommes fatigués et chargés et il nous donne du repos. Nous te remercions ce soir, Seigneur, et nous prions que tu nous aides à atteindre les perdu dans le monde. Au nom de Jésus, amen. Asseyez-vous. Quelle belle soirée. Merci d'être ici ce soir. On a eu un message incroyable de Pasteur Matty, de Pasteur Stevens. Vraiment, c'était un super message. J'étais tellement enthousiasmée par ce message que j'ai oublié ce dont je voulais parler. Et dans ces messages, on voit vraiment le cœur de Dieu, le véritable cœur de Dieu. Je pensais en Acte 15 avant qu'on arrive au sujet. La Bible a dit, j'ai trouvé David, le fils de Jessé, un homme selon mon cœur ou soumis à mon cœur et qui va accomplir toute ma volonté. Il n'y a que les hommes qui sont soumis au cœur de Dieu. Les ministères et les gens qui sont soumis au cœur de Dieu qui vont accomplir la volonté de Dieu. Si vous pensez à Acte 13, on doit être une lumière pour les nations, le salut pour les extrémités de la terre. Pensez d'un cœur de l'individu, en partant du cœur d'un individu, d'une seule personne, pour aller jusqu'aux extrémités de la terre. Imaginez tout le chemin, c'est incroyable. Mais Dieu dit, cette distance en fait n'est pas si grande. Cette distance n'est pas si grande quand une personne est selon le cœur de Dieu. Et j'aime cette portion des Écritures, parce que je pensais l'autre soir, je n'ai jamais prêché un message sur André. Et André était vraiment un homme de Dieu. Il a été le premier disciple à suivre Jésus. Et il a été le premier à aller chercher quelqu'un d'autre. C'est vraiment incroyable. Il a été le premier. Il y en avait trois qui suivaient Jean le Baptiste. Et quand il a dit, voici l'agneau de Dieu, alors ils se sont mis à suivre Jésus-Christ. Et je crois qu'il était le premier. Et immédiatement, il est allé chercher son frère Pierre. Et il l'a amené à Jésus. Il amenait toujours quelqu'un à Dieu, à Jésus lui-même. Et c'est vraiment un aspect extraordinaire de notre vie en tant que croyants, c'est qu'on peut amener des gens à Jésus-Christ. Et donc André ne s'est pas contenté d'amener Pierre. On n'entend pas beaucoup parler d'André, même s'il a continué à servir en Grèce. et aussi dans une partie de l'Asie. Il a été crucifié comme son frère Simon-Pierre. Et pourtant, on entend très très peu parler d'André. Mais on voit qu'André n'a pas seulement amené Pierre, mais qu'est-ce qu'il a fait d'autre? On entend beaucoup parler de Pierre et de sa prédication et des gens qui sont sauvés, qui ont été sauvés grâce à lui et comment il a dirigé l'Église. Il y a beaucoup de choses à propos de Pierre dans les Écritures et à raison. Mais qu'a fait André? André, il a amené Pierre à Jésus. Il a été aussi celui qui a amené un homme, qui a amené ce petit garçon avec les 5 pains et les 2 poissons quand il y avait tous ces gens qui étaient affamés dans le désert. André est celui qui a amené le petit garçon à Jésus en disant, on a un petit garçon ici qui a 5 pains et 2 poissons. Et Jésus, avec ses bras grands ouverts, l'a juste reçu. Ensuite, en Jean 12, verset 22, les Grecs sont venus à la fête et ils ont dit, on désire voir Jésus. Et qui pensez-vous qui les a amenés à Jésus? C'est encore André. André les a amenés à Jésus. Et vraiment, quelle liberté incroyable nous avons. Je pensais à la statue de la liberté. Et nous, on a un Dieu qui est un Dieu de salut et de liberté qui a les bras grands ouverts pour accueillir tout le monde. Et nous, on a la liberté d'amener les gens à Christ. On n'essaye pas d'amener les gens à être spirituels, on n'essaye pas de les changer, on n'essaye pas de les débarrasser de leurs mauvaises habitudes, on n'essaye pas de les convaincre que leur religion n'est pas la bonne. On ne fait rien de tout ça. On les amène simplement à Jésus-Christ. Et quand j'amène des gens à Jésus-Christ, ses bras sont comment? Ils sont grands ouverts. Ses bras sont grands ouverts. C'est le cœur de Dieu. Je crois que c'est dans la maison de Pierre en Marc 2, parce qu'il y a une connexion avec Marc 1, 29 à 39. Jésus est là dans la maison et il enseigne, il prêche, et il y a cet homme paralytique. Et il y a 4 hommes qui voulaient tellement que cet homme soit guéri, qu'il soit délivré. Et à propos, il a dit, « Mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi et quoi ?» Ils ont dit, « On va l'amener à Jésus. » Et ça ne va pas être facile. Il va falloir le faire monter par le toit. Imaginez si les gens étaient en train de découper votre toit, en train d'enlever les tuiles, les 3 ou 4 matériaux dont le toit était fait. Et ensuite, ils le font descendre avec des cordes. Et certains disent que c'était des fils de pêche. Et ils le font descendre directement devant Jésus. Ils ont amené cet homme à Jésus. Ils ont porté cet homme et ils l'ont amené à Jésus. Marc chapitre 9, verset 19. Il est dit, à propos d'un jeune démoniaque, « Amenez-le-moi simplement, dit Jésus. Amenez-le-moi simplement. » Tout est au sujet de ça. Amenez des gens au cœur et à la vie de Dieu. Il est celui qui pardonne. Il est celui qui libère. Il est celui qui les aime. Il est celui qui va les encourager. Il est celui qui va leur donner un but. Il est celui qui se soucie d'eux, qui va les pardonner. Contentons-nous d'amener les gens à Christ. Et c'est tellement incroyable, parce qu'il n'y a aucun lien là. Je me contente d'amener les gens à Jésus. Et je les amène. Peut-être c'est à mon travail, peut-être c'est dans mon voisinage, peut-être c'est à l'épicerie, peut-être c'est à la station d'essence, peut-être dans un événement de la communauté, peut-être c'est en parlant aux gens aux différentes portes, en leur parlant à l'évangélisation, mais où que ce soit, ce que je dis simplement, c'est que les bras de Jésus sont grands ouverts. Son cœur est grand ouvert pour n'importe qui. Peu importe quel est le problème, il y a tellement de personnes qui ont entendu tellement de choses négatives concernant les églises, le légalisme, la sainteté, qu'ils disent « je ne peux pas venir à l'église, je ne peux pas aller à Dieu ». Et nous sommes là avec une opportunité incroyable. J'aime ce que pasteur Mathieu a dit, nous pouvons amener le monde islamique dans les bras de Jésus. Et il va les embrasser. Je parlais avec un homme une fois, au nord du Ghana, dans la région du désert du Sahara, et il se... Il était en train de se laver les pieds, de se laver les mains, de se purifier pour adorer. Et je lui ai dit, excuse-moi, est-ce que je peux me permettre, je ne veux pas t'interrompre quand tu te prépares à adorer, mais j'ai juste une question. Et il était là par terre en train de faire tout ça, assis par terre. Et je lui ai dit, est-ce que je peux juste te poser une question? Et il m'a dit, bien sûr. Et je lui ai dit, est-ce que tu peux m'expliquer, je vois que tu es en train de laver tes mains, tu laves tes bras jusqu'au coude, tu laves tes lèvres et tes dents. Comment tu fais pour laver ton cœur? Il m'a regardé, il m'a dit, est-ce que je peux te parler? J'ai dit oui. On a pris quelque chose à boire, un soda. Et il m'a dit, il faut que j'entende ce message. Ce que tu m'as dit, comment je fais pour laver mon cœur? Et vraiment, quand on voit la façon dont les gens approchent les gens, Jésus a toujours les bras grands ouverts. Il a eu les bras grands ouverts pour Nicodème. Quand on pense aux gens religieux, aux vieux, aux jeunes, aux handicapés, aux gens qui sont en bonne santé, les riches, les pauvres, ceux qui sont éduqués, ceux qui sont illettrés, ceux qui sont reconnus, ceux qui sont rejetés. Pensez aux gens sur toute la planète Terre. Et Dieu leur dit, mes bras sont grands ouverts, je les aime. Et quand nous réalisons que c'est le cœur de Dieu, que c'est le cœur de Dieu de servir les gens, alors c'est le genre d'amour dont on a tellement besoin. Je pensais à la vie de Pasteur Stevens et au ministère de Greater Grace. Et hier soir, on parlait, quand Pasteur Schaller a prêché ce message, je pensais que c'était un tel message sur le cœur de Dieu. Grâce à Dieu qu'on a de tels dirigeants, que Pasteur Stevens, Pasteur Schaller, j'aime beaucoup son cœur, j'aime beaucoup le cœur de ces hommes de Dieu dans le monde entier. Et juste de voir le cœur de Dieu, vous sentez vraiment que c'est le cœur de Dieu, atteindre les gens, peu importe qui ils sont, peu importe ce qu'ils font, peu importe ce qu'ils ont fait, peu importe ce qu'ils pensent ou ce qu'ils vont faire. La seule chose qui compte, c'est que je sache que c'est qu'ils sachent que les bras de Dieu sont grands ouverts pour eux. Quand j'avais un ministère dans les prisons, je rencontrais constamment des gens qui avaient des addictions terribles, des alcooliques, des drogués. Et ils avaient juste besoin de quelqu'un qui leur dise, Dieu veut vous prendre dans ses bras. Ça, c'est le message de l'Évangile. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. Tous ces ismes, tous ces gens, on se retrouve tellement pris dans ces choses. Mais la seule chose qui compte, c'est que ce sont des gens qui ont besoin de Dieu. Ce soit des Chinois, des Africains, qui viennent des îles, qui viennent d'Amérique du Sud, qu'ils soient religieux ou non, ça n'importe pas. Ce sont des gens qui ont un vide dans leur cœur et qui ont besoin de Jésus-Christ. Et lui, il a les bras grands ouverts pour eux. Et c'est extraordinaire. On s'occupe tellement de choses concernant telle personne, elle vient d'où, pour ce ministère, vous devez avoir telle approche, dans cette culture, vous devez faire les choses comme ça. Mais la seule chose qui compte, c'est qu'il y a une personne qui a besoin d'une personne, Jésus-Christ, dont les bras sont grands ouverts. Et je sais ça à cause de ce message de la grâce et de l'œuvre accomplie et de l'amour de Dieu, que les bras de Dieu sont grands ouverts pour moi. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Les bras de Dieu sont grands ouverts. Ses bras sont grands ouverts. Venez, venez, amenez les gens. Amenez des gens qui souffrent. J'aime Luc chapitre 4, versets 16 à 20. Il est dit, écoutez, allez chercher les pauvres, ceux qui ont le cœur brisé, les captifs, les aveugles et ceux qui sont blessés, et dites-leur, c'est ici l'année acceptable du Seigneur, l'année de la faveur de Dieu. Amenez-les. Et c'est le premier message que Jésus a fait en Luc chapitre 4. Dès qu'il est sorti de Nazareth, de la synagogue, ça a été son message. Amenez-les, peu importe qui ils sont. Est-ce que vous n'aimez pas Luc 14? Allez chercher les pauvres, les aveugles. Et amenez-les dans ma maison. Pourquoi? Parce que je veux que ma maison soit pleine. Et ensuite, il est dit au verset 23, allez-y et contraignez-les d'entrer. Allez pas juste dehors rapidement, mais allez-y pour les contraindre d'entrer. C'est vraiment ça le rôle de l'Église. Imagine les gens qui s'appellent une Église et qui ne vont pas atteindre les perdus. C'est étonnant parce que l'Église, dans le sens original, ça veut dire ceux qui sont appelés en dehors. Vous êtes appelés en dehors et vous n'appelez plus personne. C'est incroyable. Quel est le problème? C'est le cœur. C'est le fait de ne pas être en communion avec le cœur de Dieu. C'est là que se trouve, qu'on trouve le pouvoir et l'autorité. C'est de là que vient la vision. Il y a une histoire que je lisais l'autre jour. Je l'ai déjà dit, mais j'aime vraiment cette histoire. Deux armées étaient en train de se battre. Et un, il y avait un général qui était très aimé, qui conduisait une des armées. Et il allait comme s'il volait dans les rangs de l'ennemi. Et un jour, il a fait ça et il a été tué. Et ils sont allés chercher son corps. Ils ont pris son corps et ils l'ont sorti du champ de bataille. Et ils ont dit, maintenant, on n'arrivera jamais à gagner cette bataille. Notre héros, notre capitaine, notre général, celui qui nous conduisait est mort. Et quelqu'un a dit, j'ai la solution. Il a pris un couteau et il a coupé le cœur du général. Il l'a mis dans une petite boîte. Et il a jeté le cœur au milieu des ennemis. Et tellement a été tellement motivé qu'ils ont dit, allons-y, il faut qu'on récupère ce cœur. Il faut qu'on aille chercher ce cœur. Et ils sont allés chercher ce cœur et ils ont gagné la bataille. Le cœur de Jésus-Christ est au milieu de ces nations. C'est là que se trouve le cœur de Dieu. C'est dans le monde, il est dans le monde islamique. Il est en Chine et en Inde et en Amérique du Sud. Il est au milieu des nations. Et bien sûr, il est aussi dans la ville de Baltimore, partout. On a besoin d'amener les gens à Jésus. Amenez juste les gens à Jésus. Je voulais utiliser Pasteur Sturge pour une illustration, mais j'ai mal du côté droit, je ne peux pas le faire. Jésus-Christ n'a jamais traîné les gens quelque part. Le Saint-Esprit ne fait jamais ça. Jésus-Christ n'a jamais poussé personne à faire quoi que ce soit. Mais Dieu porte les gens. Il porte les gens. Il les porte. Il les porte pour aller à un endroit où vous préférerez ne pas aller. Je ne veux pas aller à cet endroit, je ne veux pas aller dans ce pays. Mais il va vous y porter. Il va vous porter là où vous ne voulez pas aller. C'est encourageant, n'est-ce pas? Est-ce que vous ne pouvez pas dire Alléluia? Ses bras sont grands ouverts. Et quand on a le cœur de Dieu, et on l'a, alors on présente ce message de l'Évangile. Et on dit, vous, si vous saviez que les bras de Dieu sont grands ouverts, est-ce que je peux vous amener à lui? Est-ce que je peux vous amener à l'Église? C'est juste au sujet de nous amenant les gens. André a amené Pierre, a amené le jeune garçon, il a amené les Grecs qui venaient à la fête, il était tout le temps en train d'amener des gens à Christ. Et vraiment, ce n'est pas une question d'œuvre, ce n'est pas une question de ma capacité, ce n'est pas une question de mes talents, ce n'est pas une question de méthode d'évangélisation. Est-ce que tu connais toutes les méthodes? Non. Je connais juste le cœur de Dieu et je sais que ses bras sont grands ouverts. Et c'est ça la méthode. Tout le monde a toutes ces méthodes. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Mais vous savez quoi, le cœur de Dieu? Ses bras sont grands ouverts. Peu importe où nous sommes, nous reconnaissons dans nos vies quotidiennes. J'aime cette portion de Luc 10. Il y a un homme qui va de Jérusalem à Jéricho. Et il est laissé quasiment mort par des voleurs. Et il y a un prêtre et un lévite qui passent à côté. Et ils l'ont regardé. Et ils sont partis très loin. Ils ont changé de trottoir. Ils l'ont regardé, mais ils n'étaient pas du tout intéressés par ce qui se passait. Ils se sont mis à marcher sur l'autre trottoir. Mais j'aime ce bon samaritain. Il est venu. Et j'aime ces quatre mots, cette phrase en Luc 10. Il est venu là où se trouvait l'homme. C'est ça ce que fait notre ministère. On va où sont les gens. On va où sont les gens. Que ce soit à Kinshasa au Congo, que ce soit à Haïti, là où il y a toutes les victimes du tremblement de terre, que ce soit à Puerto Rico, au Pérou, en Argentine, en Somalie, ou au Congo, ou en Europe de l'Est, ou en Asie centrale, à Bahreïn, en Égypte, en Syrie, ce sont des gens qui ont besoin d'une personne dont les bras sont grands ouverts. Et donc je ne suis pas intimidée parce que j'amène juste les gens à quelqu'un qui a les bras grands ouverts. Ils ont si souvent été présentés à des gens qui ont l'air d'avoir une pensée et un cœur fermé pour eux. Alors qu'on continue à avancer dans ce monde perdu, on va de l'avant en sachant que on a juste à amener les gens à Jésus-Christ, dont les bras sont grands ouverts. C'est notre travail. Ce n'est pas quelque chose d'intellectuel. Ça s'adresse à tout le monde. Ça peut s'adresser à des gens, à des businessmen, à des gens intellectuels, à des gens qui ont de l'argent. Mais peu importe, il y a un vide dans leur vie. Ils savent qu'il leur manque quelque chose. Ils sont étendus dans leur nid la nuit et ils savent qu'il y a quelque chose qui leur manque. Peu importe ce qu'ils font pour convaincre les gens que tout va bien, dans tout leur style de vie, Dieu leur dit, que ce soit Zachée ou Bartimée, mes bras sont grands ouverts. Amenez-les-moi, amenez-les-moi. Allez vite les chercher. Pourquoi ? Parce qu'on doit compter nos jours. Enseigne-nous à compter nos jours, afin que nous puissions appliquer nos cœurs à la sagesse. Alors qu'on pense à l'année qui vient, à partir d'aujourd'hui, continuons à amener les gens à Christ simplement. Ne regardez pas à vous-même, amenez-les à Jésus. Qu'est-ce que vous croyez ? Que vous allez les amener à vous-même ? Que vous allez les sauver ? Que vous allez les délivrer ? Que vous allez les changer ? Contentez-vous de les amener à Jésus. Amen. Peu importe à quel point ça peut sembler difficile, peu importe à quel point ils ont l'air mauvais, peu importe en quoi ils croient, peu importe quelle est leur vie, quel est leur passé, contentez-vous d'amener les gens à Jésus. Devenez des anges spirituels et amenez les gens à Christ. On amène les gens à Christ, on les amène à Christ. Parce que vous savez quoi ? Si on ne le fait pas, qui va le faire ? Qui va le faire ? Est-ce que ça va être des anges ? Non, Dieu nous a donné à nous le message de l'Évangile. Il l'a versé dans nos cœurs. Ses bras sont grands ouverts pour nous. Et on se contente d'amener des gens, d'amener des gens, d'amener des gens. Allons de l'avant dans le monde entier. Il y a des villes, il y a des villages, il y a des pays, il y a des continents. Et contentons-nous d'amener les gens à Jésus-Christ. Amen. Père, on te remercie ce soir. Merci. Tu as dit en Marc 9, 19, amenez-le-moi. 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 Nicodème a été amené à Jésus de nuit. La femme au puits. L'aveugle en Jean 9. Une femme prise en adultère. Amenez-les à moi. L'aveugle Bartimée. Le démoniaque en Marc 5. Amenez-les à moi. Amenez-les à moi. Amenez-les à moi.
Oh God, may you motivate us.
Seigneur, motive-nous que nous puissions avoir ton cœur, un cœur ouvert, des bras ouverts.
Thank you.
Merci.
That we, you initiated, we just came.
De ce que tu inities, nous nous contentons de venir. Le Saint-Esprit, l'Évangile, la parole, le corps de Christ initie et dit, viens juste à Jésus, viens juste à Jésus. Ses bras sont grands ouverts. Pierre a dit, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Et Jésus a dit, suis-moi, je ferai de toi un pécheur d'homme. Quel contraste. Jésus, éloigne-toi de moi, retire-toi de moi. Retire-toi de moi, je suis tellement plein de péchés. Et Jésus dit, suis-moi. Je ferai de toi un pécheur d'homme. Merci. Tes bras sont grands ouverts. On te prie ce soir que ton cœur motive nos vies, que tu nous aides
bring people to you.
À amener les gens à toi.
Ce
n'est pas quelque chose qu'on peut faire par nos propres œuvres, par nos propres capacités, mais aide-nous, Seigneur, nous te prions, aide-nous. Peut-être je n'ai jamais parlé à personne de Christ. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à avoir un nouveau commencement, à commencer à t'amener des gens. Que ce soit dans le monde dont Pasteur Mati a parlé, que ce soit en Russie, en Azerbaïdjan, ou que ce soit, que chaque jour je regarde à Jésus, que je vois ses bras grands ouverts. Merci. Merci parce que tu nous as sauvés. Et n'importe qui peut être sauvé par Jésus-Christ. Tu as les bras grands ouverts. Aide-nous, Seigneur, à amener les gens à toi. Parfois, il y a des situations comme il y a un toit qui vient se mettre en travers, mais aide-nous à avoir le courage d'enlever le toit. Si vous êtes ici ce soir et vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, j'aimerais vraiment vous dire que Dieu vous aime. Peut-être vous êtes en train de regarder par Internet. Dieu vous aime ce soir. Ses bras sont grands ouverts. Est-ce que vous n'allez pas le laisser vous embrasser, vous aimer, vous donner sa miséricorde et ôter tous vos péchés, se donner à vous lui-même? Ses bras sont grands ouverts. Il ne rejette personne. Quiconque vient à moi, je ne le rejetterai jamais. Personne. Même un homme qui tuait les chrétiens en acte 9, personne. Ses bras sont grands ouverts. Seigneur, sauve-moi ce soir. Je crois en toi et je te reçois comme mon sauveur personnel. Alors qu'on a tous les yeux fermés et la tête penchée, levez la main si vous faites cette prière. Jésus, sauve-moi ce soir. Merci pour cette main. Père, on te remercie. Levez-vous et juste priez à Dieu ce soir. Priez juste. Avec n'importe quel mot que vous voulez utiliser, de quelque façon que ce soit. Père, ouvre mon cœur, Seigneur. Aide-moi à amener des gens à toi. Vous
ne
pouvez pas faire de vous-même des pêcheurs d'hommes. Dieu seul peut le faire. Dites-lui, je veux devenir un pêcheur d'hommes.
Ce
n'est pas à propos de ce qu'on peut faire. C'est juste à propos de demander à Dieu qu'il le fasse pour nous. Touche nos vies, Seigneur. Aide-nous à voir que les gens sont perdus. On est au milieu de millions et de millions de perdus. Je crois entendre leur cri alors qu'ils tombent dans la tombe. Nous mourons, n'y a-t-il personne pour aller les sauver? Les gens périssent et nous les aimons. Aide-nous, Seigneur, à amener les gens à toi. C'est pas juste une question d'activité, c'est Dieu. Que ces soirées nous révèlent ton cœur. Peut-être même pour un monde que nous ne connaissons pas, celui dont parle Pasteur Mati. Que Dieu vous parle. Seigneur, n'ayez pas peur de demander. Seigneur, parle-moi. Touche-moi, Seigneur.
Embrace me, God.
Embrasse-moi, Seigneur.
Minister to me, God.
Et un ministère envers moi, Seigneur. Montre-moi quel est le prochain pas. Peut-être c'est l'Institut biblique pour être équipé. Peut-être c'est implanter une église aux États-Unis. Peut-être c'est devenir quelqu'un qui a l'opportunité de gagner des âmes, d'amener des âmes dans cette église, dans ce ministère extraordinaire que tu nous as donné. Tes bras sont grands ouverts. Aller dans le monde, tellement d'endroits différents. Tu as dit, prier le Seigneur de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. C'est sa moisson. Priez. Nous prions. Et je ne veux pas avoir peur, je veux juste prier. Je ne veux pas être intimidé. Je ne veux pas être insensible, je veux juste prier. Seigneur, je prie le Seigneur de la moisson qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. C'est sa moisson. Nous sommes ses ouvriers. Tu es le Seigneur de la moisson. Ne vous inquiétez pas du temps. Pensez à l'éternité. Pensez à avoir un but éternel. Merci Seigneur pour tellement de gens ici qui t'aiment et qui vont chercher les perdus. On a un ministère extraordinaire. Merci Seigneur. Je te prie Seigneur que dans ces derniers jours tu nous motives, tu nous pousses à amener des gens à toi. Que le Saint-Esprit nous utilise pour amener des gens à Jésus-Christ. Il est la personne, c'est lui qui a fait l'œuvre. Levez vos mains vers lui ce soir. Remerciez-le.
Alléluia.
Merci Jésus. On te loue Seigneur. Merci Seigneur. Tes bras sont grands ouverts. On te prie que tu bénisses le reste de cette soirée ce soir. Qu'on puisse continuer à méditer sur ces choses en quittant cet endroit. Et qu'on ne se contente pas de s'échapper. Mais que la parole de Dieu produise une vision dans nos vies. En motivant notre pensée, nos émotions, pour prendre des décisions. Pour te permettre de nous utiliser. Merci, on te loue ce soir au nom de Jésus. Amen.